Alors bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux avec votre animatrice Arlette Farah qui était en train de danser sur son siège, ça commence bien. Donc avec nous aujourd'hui c'est la chronique de Jean-Sébastien La Liberté. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour, moi je danse encore sur mon siège aussi.
qui est aux manettes, qui nous cherche de la musique, enfin qui s'occupe de tout et en même temps il va nous parler de sa chronique qui s'appelle Moment Schadenfreude. J'ai bien prononcé ?
De mieux en mieux, ma chère, de mieux en mieux.
Mais tu sais que j'essaye tous les jours de le prononcer pour que quand arrive le moment fatidique, je sois complètement... je sois au top.
Ça porte fruit.
Alors, ça porte, c'est le cas de le dire, sur certains récipiendaires des prix Darwin. Si vous ne savez pas ce que c'est, surtout restez à l'écoute, ne ratez pas cette chronique. Parce qu'en plus, aujourd'hui, journée spéciale, nous allons avoir Noémie Chelariou, pour ceux qui la connaissent. Et c'est une autrice, compositrice, interprète qui va avoir le défi d'écouter cette émission, d'écouter la chronique et de créer une chanson avant la fin de l'émission sur ce que va nous raconter Jean-Sébastien. Alors d'habitude, Noémie fait des chansons sur des invités que nous avons qui ont plein de choses à dire, des choses poétiques. Et là, sur une chronique complètement décalée, elle va devoir faire une musique et ça va être une performance. Donc, Noémie, si tu nous écoutes, bon courage.
Bien hâte d'entendre
déjà,
ça.
Déjà, oui, on a tous hâte de l'entendre. Et moi encore plus, ça me fait beaucoup rire. Donc, bien sûr, comme Jean-Sébastien a un humour complètement décalé, mais que j'adore, en lien avec sa prochaine chronique, nous allons écouter la chanson de Petula Clark qui nous chante Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir.
Je voudrais être un ange et puis vivre au paradis. Là, tout le monde est heureux, il y fait beau à ce qu'on dit. J'aimerais faire le voyage un jour, ce qui m'inquiète un peu. Y a pas de ticket pour le retour du paradis tout bleu. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne, personne, personne ne veut mourir. Mon oncle est un avare. Il se meurt de privation. Il a une fortune en banque. Il est riche à millions. Son docteur dit qu'il va mourir. Mon oncle dit, oh non. Moi je me refuse à partir en laissant mes millions. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Je me suis trouvée toute seule au désert éternel. Je n'ai vu que Saint-Pierre à la porte avec les larmes aux yeux. Il m'a expliqué pourquoi il était si malheureux. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Tout le monde veut ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne, personne, personne ne veut mourir. Non, personne, personne, personne ne veut mourir.
Vous avez bien entendu ce que dit Petula Clark, vous l'avez bien compris. Eh bien maintenant, Jean-Sébastien La Liberté, c'est à toi. Pour ta chronique.
Et à toute chose, malheur. Et bon, on va donc tenter de trouver des parcelles de joie dans les histoires suivantes. Pour ceux qui ne connaissent pas les prix Darwin, ceux qui ont peut-être manqué les précédentes chroniques, petit rappel, ce sont des personnes qui sont décédées pour la plupart ou qui se sont, rendues incapables de se reproduire de manière totalement autonome. Des personnes qui ont un jugement douteux, voire déficient, Et des personnes qui, bref, la plupart du temps, se sont tuées dans des conditions totalement ridicules. C'est tellement gros qu'on peut se permettre, quelque part, d'en rire. Parce que, c'est bon, on ne rit pas généralement du malheur des autres, mais là, c'est tellement énorme. Et pour être récipiendaire, toujours, de ces prix Darwin, il faut aussi être la seule victime... Donc, si on met en danger d'autres personnes innocentes autour de nous, eh bien, on change de catégorie. On n'est plus dans les prix Darwin, on est plus dans les irresponsables.
Voilà.
Alors, donc, un bien bon plan pour commencer. avant, petite question, Arlette, est-ce que tu as déjà fait des sports extrêmes?
Ah non, non,
pas
non.
Moi non plus, ce n'est pas pour moi.
Je les regarde, je dis « Ouais, bravo !» Mais je me contente de les regarder.
Oui, je peux comprendre que certains en tirent un certain plaisir, mais moi, ce n'est pas pour moi non plus, donc ça ne fait pas partie de ma liste, le saut en bungee notamment. Et puis, on va parler justement de saut en bungee avec Eric, 22 ans, qui décide de sauter en bungee au mois de juillet en 1997, ça fait déjà quelques années. Et je le disais déjà à cette chronique il y a quelques semaines que normalement les sports extrêmes sont exclus des prix Darwin parce que bon, ça vient évidemment, le mot le dit, sport extrême, oui. Ça vient avec un risque quand même, un risque qui est conscient, un risque qui est calculé, donc on agit en conséquence, mais quand même, il y a des fois où on peut peut-être prendre certaines choses pour acquis. Alors Eric, plutôt que d'aller dans un endroit spécialisé dans le saut en bungee avec des installations professionnelles, du personnel qualifié, lui, ben, il a opté pour une version faite maison de cette expérience de bungee. Il a donc été sur un pont ferroviaire avec plusieurs cordes de bungee qu'il a scotchées ensemble. Il a scrupuleusement mesuré la corde afin qu'elle soit un peu plus courte que la distance de 70 pieds qui séparait le pont du sol et a bien attaché une partie à son pied et l'autre partie au pont. Mais il a apparemment oublié dans les mesures de 1 que sa hauteur à lui doit compter dans la longueur de la corde puisqu'il saute tête première, donc il a une grandeur quand même qui doit être prise en compte. Et de 2, et c'est peut-être aussi, sinon plus important, une corde bungee, le principe d'une corde bungee, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le bungee, on est en hauteur, on est attaché à une corde élastique, on saute dans plus ou moins dans le vide, et quand ça arrive en bas, l'élastique s'étire, et on remonte en haut et on saute, et ça. Donc c'est élastique, alors la corde, quand on la mesure... Il faut qu'elle soit étirée. Si on mesure la corde non étirée, c'est comme mesurer un élastique. Donc, bref, petite erreur de ce jeune homme de 22 ans qui a sauté vers sa mort, dirons-nous.
Oh, quelle horreur! Allez, une autre.
Le changement d'heure.
Oui, ben, le changement Arlette, d'heure ne peut pas provoquer des morts quand même.
Est-ce que tu es pour ou contre le changement d'heure, Arlette? Je sais qu'il y a des gens qui ont des opinions bien arrêtées, à savoir on avance l'heure. Non, moi, je ne veux
moi,
pas.
Moi, je suis contre. Je suis contre. Je suis pour suivre la nature. La nature est bien faite. Elle est excellente en tout point. Donc, on la suit. Voilà.
D'accord. Ben c'est une opinion. On sait qu'on change l'heure à l'automne et au printemps. Et oui. Bon, ça, historiquement, pour aller en lien avec la luminosité qui change au cours des saisons. Et c'était, entre autres, en lien avec l'agriculture. Maintenant, avec l'électricité et tout ça, c'est peut-être un peu moins pertinent, mais ça fait partie de notre culture. Et ça vient avec son petit lot d'inconvénients, changer l'heure. Hein. Parfois, on peut arriver une heure en retard au travail ou à l'école, ou encore une heure à l'avance, oui. Si on oublie de changer l'heure du moment venu. J'ai eu vent aussi d'un couple de la Rive-Sud qui, au lieu de reculer l'heure à l'automne, l'a plutôt avancé, et non pas une fois, mais deux fois. Donc, le soir, monsieur avance l'heure, et ne sachant pas, madame avance l'heure quelques instants après, ou vice-versa. Donc, au lieu d'avoir reculé l'heure, ils se sont retrouvés avec un décalage de 3 heures, et vous comprendrez qu'ils étaient les premiers arrivés à la messe le lendemain matin. Et depuis quelques années, les dates de changement diffèrent entre certains pays, notamment entre le Canada et la France. Il y a une semaine d'écart, oui. Donc faut en prendre note. Et ici même, à la radio, ça nous avait joué un tour lorsqu'on avait une entrevue outre-mer de prévu pendant cette semaine-là. Normalement, on a 5 heures de décalage, mais pendant cette semaine-là...
6 heures, on a 6 heures de décalage. Et donc, pendant cette semaine-là, ça faisait que 5 heures.
Ouais. On appelle pour avoir l'entrevue et puis ben il y avait une différence d'une heure. Donc l'invité n'était pas prêt. Nous, on est en direct. Bref, les joies du direct... Mais tout préambule pour vous amener en Israël en 1999, alors que le pays devance de plusieurs jours la date du retour à l'heure régulière à l'automne, pour des raisons religieuses, à 17h30, deux voitures explosent, chacun dans une ville différente. Évidemment, ça ne peut pas être lié qu'uniquement au changement d'heure des voitures qui explosent. En 99, les voitures n'étaient pas si intelligentes que ça. Dans chacune des voitures, des touristes palestiniens. La Palestine, là où les bombes avaient été programmées, n'avait pas changé l'heure. Mais les conducteurs, possiblement kamikazes malgré eux, avaient reculé leur montre. Ils étaient donc sûrs qu'ils disposaient d'encore une heure avant de se rendre à destination. Et ils étaient en route lorsque l'explosion, finalement, a sauté. Et puis, ben, ils n'auront été que les seules victimes, par chance.
Ah, c'est absolument horrible et impensable, mais en même temps tellement drôle. Je m'en excuse, mais moi, ça me fait rire aux éclats. Même si c'est dramatique.
Ben, dans ce cas-ci, s'il n'avait pas eu cette erreur-là, ben, il y aurait probablement eu plus de victimes, mais probablement des victimes innocentes dans le lot.
Allez, une autre encore, ouais, avant qu'on parte en musique.
Alors, jouer avec le feu. Je me rappelle d'une certaine époque, qui date de plusieurs décennies, je me rappelle que ça a déjà existé. C'est plus vieux que moi, donc ça peut même dater de quelques siècles. À certains endroits, on rémunérait les pompiers à l'acte, ce qui peut penser... On pourrait peut-être penser que certains incendies pourraient avoir eu une origine de nature économique. Hein? Donc, si aucun incendie à éteindre pendant plusieurs semaines, ces pompiers-là ne se faisaient pas payer. Autre temps, autre mœurs.
Oui, alors je comprends pourquoi il y avait des feux volontaires.
En 1999, au Tennessee, 7 pompiers mirent sur pied un plan afin de permettre à un de leurs anciens collègues de revenir au travail. Le plan est fort simple. Incendie une maison, puis permettre à cet homme d'être le héros du jour qui éteint le brasier. Un plan apparemment plus simple à dire qu'à faire. C'est déjà pas facile de faire un feu avec des bûches, et je parle par expérience, donc notre homme décide, lui, d'aider les choses en répandant de l'essence un peu partout à l'intérieur. Et loin de moi l'idée d'expliquer aux gens comment faire un incendie criminel, je dois tout de même nommer l'évidence. Il faut sortir de la maison avant d'allumer. Ou du moins ne pas se peinturer dans un coin. On aurait pu penser qu'un pompier aurait été plus sage, mais bon. Inutile de dire qu'il n'est jamais revenu au travail, lui qui n'est jamais sorti de la maison.
Je remarque en tout cas que toutes tes anecdotes datent d'avant 2000.
Aujourd'hui, oui,
aujourd'hui, on fait 20 ans en arrière, histoire qu'on blesse personne, c'est ça?
Oui, aujourd'hui, je me suis concentré surtout sur la fin de ce siècle-là. À l'occasion, je peux aller dans le plus récent, mais le récent, des fois, c'est encore frais.
Oui,
donc...
oui, non, allons-y, c'est toujours... Mais de toute façon... C'est quand même horrible, mais c'est drôle. On ne peut pas s'empêcher d'en rire. En tout cas, moi, je ne peux pas m'empêcher d'en rire. Est-ce que nous faisons un petit moment musical?
Allons-y donc en chanson.
Allez.
Yeah.
Alors, on vient d'entendre Tom Fun Orchestra qui nous chantait Wedgemaker.
Oui, un groupe de la Nouvelle-Écosse que je trouve fort talentueux.
Oui, je ne connaissais pas, donc merci pour cette découverte. Jean-Sébastien Laliberté, nous continuons avec un autre exemple.
Oui, oui, et puis question de changer de décennie, vu qu'on s'est concentré surtout sur la fin des années 90, on va reculer d'encore une autre décennie. L'expérience n'est pas toujours gage de succès. Je disais en début de chronique que je ne suis pas un grand amateur de sport extrême, et puis, bon, comme c'était le cas pour le bungee, je n'ai jamais sauté en parachute non plus. Ça ne fait pas partie de ma bucket list.
Ça fait partie des choses que j'aurais envie de faire, mais la peur est plus intense que l'envie, pour l'instant.
Oui, c'est ce que je trouve d'impressionnant. On peut voir les plans, les images, soit les vidéos ou les photos de personnes qui sautent, et la vue de la Terre, donc de voir ça, c'est quelque chose qui doit être quand même assez phénoménal, mais oui, le fait qu'on est en chute libre avec les risques inhérents à tout ça, il y aurait une dose de stress qui ne serait peut-être pas nécessairement sain.
Surtout quand tu sautes avec quelqu'un, il te met devant. Donc,
oui, c'est ça, face à face.
C'est toi qui... ça fait peur.
Mais certaines personnes y prennent goût, comme Ivan Lester McGuire, un vétéran du saut en parachute qui, à 35 ans, avait déjà sauté plus de 800 fois. Je ne sais pas, ça fait combien de fois par jour ou par semaine pour pouvoir, en quelques années, sauter 800 fois. C'est quand même
énorme.
Une bonne centaine de fois par année. Avril 1988, en Caroline du Nord, cet homme qui aspirait à être le meilleur photographe en parachute du pays, il est allé filmer une douzaine de sauteurs à une hauteur de 10 500 pieds, ce qui représente environ 3 200 mètres. Donc, on est à plus de 3 km dans le ciel, c'est quelque chose. Il capture avec sa caméra un instructeur et un étudiant en plein vol. Et lorsqu'il tire sa main vers sa cuisse droite pour déclencher le parachute, eh bien, rien. Le parachute ne s'ouvre pas.
Quelle horreur.
Et là, on l'entend sur la caméra dire « Oh, non !» Et l'image bouge de plus en plus vite. Il voyage à 150 miles à l'heure, 240 km/h. Donc, c'est comme ça qu'il a perdu la vie. Et il fut déterminé que dans l'excitation du moment, et peut-être parce qu'après plus de 800 fois, on prend des choses pour acquis, il a embarqué dans l'avion et il a sauté sans parachute. J'ai l'impression que dans l'expression « sauter en parachute », la partie parachute est quand même importante.
Quelle horreur!
Et je voyais dans l'article de journal, il y avait une douzaine de personnes dans l'avion et personne ne pouvait dire s'il l'avait ou pas parce qu'on est chacun concentré sur son propre parachute, sur son équipement. On est responsable de soi-même. On n'a pas le temps de commencer à regarder est-ce que l'autre a fait ci, est-ce qu'il a pensé à ça.
Bon, enfin, le mec, 800 fois quand même.
Mais c'est ça, est-ce que c'était...
C'est un truc de fou ce qui peut se passer dans le cerveau, la coupure qui peut exister pour que tu sautes sans parachute en étant tellement en confiance que, allez, bye, tu crois que tu l'as.
Oui, et non. Donc,
incroyable.
Une petite dernière pour,
allez, une petite
pour terminer.
Dernière pour la route.
Les étoiles filantes. Est-ce que tu connais les Perséides, Arlette?
Oui.
C'est une énorme, très belle pluie d'étoiles filantes qu'on peut voir
magnifique.
Au mois d'août. Et pour 2021, ceux qui sont intéressés, dans la nuit du 11 au 12 et du 12 au 13 seront les journées, enfin les nuits, durant lesquelles on pourra compter le plus d'astres qui tombent à l'heure. Donc ça se compte par centaines, pas besoin de télescope, faut juste être dans un lieu quand même assez sombre, donc loin des lumières de la ville pour pouvoir profiter du spectacle. Évidemment, bon, faut que les nuages ne soient pas de la partie.
Évidemment.
Et je vous le dis afin de ne pas vous retrouver comme Scott, un Californien qui le vendredi 13 août 1999, vendredi 13, ça ne s'invente pas, s'est muni d'un télescope pour admirer le ciel, pour admirer les Perséides. Et pourtant, d'ordinaire assez brillant, lui qui pouvait construire un ordinateur pièce par pièce n'a pas pensé que bon, le champ de vision, bien que plus puissant, c'est très précis, un télescope, ça rétrécit également le champ, le spectre qu'on peut voir. Donc, on peut voir très, très loin, mais on ne voit pas très, très large en même temps. Normalement, si on regarde le ciel...
On regarde comme ça en haut et on ne voit pas sur les côtés.
C'est cela. Donc, essayer de voir un point fixe comme une planète, une étoile, c'est super. Mais pour voir des choses qui se déplacent à toute vitesse de gauche à droite, c'est peut-être pas l'outil idéal. Mais avec les Perséides, on n'a pas besoin d'outils. Nos yeux nous permettent d'en compter des centaines et des centaines. Et d'autant plus qu'avoir un télescope et être à côté d'un lampadaire, c'est ne pas aider ses chances. Alors donc, notre ami qui est en beau fusil, après le lampadaire, décide de prendre les choses en main. Il est débrouillard, donc il sort ses outils pour ouvrir la base du lampadaire et il prend une scie pour sectionner le câble électrique de 4000 volts. Pas de pluie d'étoiles filantes pour lui, mais il s'est mérité un prix Darwin.
Oh mon Dieu! Comment peut-on? Je ne dis rien parce que mais certaines m'arrivaient de faire des bêtises, mais qui ne m'ont pas amené au prix Darwin, heureusement pour moi.
Oh,
mais,
je ne peux pas m'empêcher. Une dernière
allez,
très express en une phrase et quelques. Un terroriste irakien en 2000 a envoyé un colis piégé, mais il n'a pas mis assez de timbres. Ça lui est revenu et il a ouvert le colis. Boum!
Excusez-moi, mais...
OK, on va reprendre notre souffle temps de
Allez,
la chanson, Arlette.
Oui, OK.
Il paraît que ça fait 20 ans qu'elle a pas pris un bain, que ses sous-vêtements se sont soudés ceux d'avant. Il paraît qu'elle a des gales, ses jambes et puis qu'elle les donnerait à manger à ses 70 chats pour qu'ils vivent éternellement. C'est écœurant, Marie-Louise, la vieille femme du village est victime de commérage. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est pas vrai, va donc savoir l'histoire de Marie-Louise. Il paraît comme ses chats et ses féroces et ses voraces. La nuit, il faut qu'elle l'enfant danse une cage de brasse. Il paraît que c'est un énorme matou. Quand il est en diable, il saute au corps, il saute au cou, il peut griffer jusqu'à la mort. Celui qui ose s'aventurer près du décor de Marie-Louise. La vieille femme des moulins fait placoter ses voisins. Ben moi, c'est le curé qui me l'a conté. Il y a tellement de oui tire sur Marie-Louise. Il paraît aussi que ça sent le pipi, pis vieux vomi. Quand elle t'arrête, t'as demandé quelle heure qu'il peut être. Il paraît qu'elle mange de la bouffe pour les chats et puis qu'elle est pareille à des sorcières en pampeluche. Petite hutte, pâte de poule, cours, petite cour, petite cour, cour, cour. Marie-Louise, la vieille femme du village est victime de commérage. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est pas vrai, va-t-on savoir l'histoire. Ça fait 20 ans qu'elle a pas pris un bain. Ses sous-vêtements se sont soudés sur ceux d'avant. Il paraît quand l'ambulance est arrivée, ils l'ont rentré à l'hôpital. Ils l'ont pogné, ils l'ont trempé dans le mazout comme une vieille poêle enduite de clope. Oh oui, je l'aurai dans la mémoire longtemps. Marie-Louise a rendu l'homme. Sa carapace était plus là pour la protéger de la rapace. Marie-Louise, fille des moulins, c'est bien valoir à ses dédains. C'est monsieur curé qui me l'a conté. Va donc savoir l'histoire de Marie-Louise. L'histoire de Marie-Louise.
Alors, on vient d'entendre Zébulon qui nous chantait Marie-Louise. Je tiens à vous dire, je vais faire encore mon Michel Drucker. Je m'excuse. Les chansons ont été choisies par Jean-Sébastien Laliberté.
J'assume.
Je lui rends la responsabilité de tout ça, tout ce que vous avez entendu, mais qui était complètement en lien avec sa fabuleuse chronique. Alors, avant qu'on passe en deuxième partie, on va en discuter un petit peu ensemble avant de recevoir des échos de Noémie. Noémie, je ne sais pas si tu nous entends, tu dois être en train de travailler sur la chanson. J'espère que tu as beaucoup ri et nous sommes en attente de savoir ce que tu vas pouvoir créer là-dessus. Donc restez avec nous, à tout de suite.
Écoutez Les Faramineux avec votre animatrice Arlette Farah.
Cette époque où vieillir était encore bien illusoire, quand j'agaçais les petites filles pas loin des balançoires et que mon sac de billes devenait un vrai trésor. Ces hivers enneigés à construire des igloos et rentrer les pieds gelés juste à temps pour passe-partout. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de la petite école et de la cour de récré quand les avions en papier ne partent plus au vent. On se dit que le bon temps passe finalement comme une étoile filante. Si je m'arrête un instant pour te parler de la vie, je constate que bien souvent on choisit pas mais on subit, et que les rêves des ticus s'évanouissent ou se refoulent dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule. La trentaine, la bédaine, les morveux, l'hypothèque, les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs. Travailler, faire de son mieux, d'arracher, s'en sortir et espérer être heureux un peu avant de mourir. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de notre petit passage dans ce monde effréné. Après avoir existé pour gagner du temps, on dira que l'on était finalement des étoiles filantes. Comme ça, tranquillement, pas loin du carré Saint-Louis. C'est qu'avec toi je suis bien et que j'ai plus le goût de m'en faire. Parce que tu sais, voir trop loin, c'est pas mieux que regarder en arrière. Malgré les vieilles amertumes et les amours qui passent, les chums qu'on perd en brume et les idéaux qui se cassent. La vie s'accroche et renaît comme les printemps reviennent dans une bouffée d'air frais qui apaise les cœurs en peine. Ça fait que si à soir t'as envie de rester avec moi, la nuit est douce, on peut marcher. Et même si on sait bien que tout dure rien qu'un temps, j'aimerais ça que tu sois pour un moment mon étoile filante. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Des étoiles filantes.
Vous venez d'écouter les Cowboys Fringants qui nous chantaient Étoile Filante, ce qui aurait bien été d'ailleurs avec ton histoire de tout à l'heure. Il y avait plein de chansons qui pouvaient revenir là-dessus, qui auraient pu accompagner ta chronique.
Oui. J'ai eu des suggestions également. Et parlant d'étoiles filantes, notre collaborateur Mathieu m'indique que ce n'est pas uniquement dans la nuit du 11 au 13 qu'on peut voir les étoiles filantes. Plus tard dans le mois, dans les jours qui précèdent et les jours qui suivent. Donc, c'est pendant un peu plus d'une semaine qu'on peut voir. Donc, le pic, dirons-nous, est pendant la nuit D'accord. du 11 et du 12. Mais si vous avez accès à un ciel dégagé au mois d'août...
Pas près d'un lampadaire pas avec...
Vous avez écouté Arlette, c'est tout à votre honneur.
Merci Mathieu pour l'info. Alors, en même temps, revenons un petit peu sur cette chronique qui me fait mourir de rire. Je ne sais pas, Jean-Sébastien arrive très bien à garder son sang-froid pendant qu'il le raconte. Et ça m'épate toujours parce que moi, je suis très bon public, mais je suis capable de vous le raconter. Mais je vous raconte, je ris avant, je ris pendant et je ris après. Donc, je ne suis pas sûre que vous auriez vraiment compris le contexte. Est-ce que toi, ça t'amuse? Comment ça se passe, ta recherche?
Je trouve le procédé quand même assez intriguant parce qu'il y en a énormément, mais énormément des récipiendaires des Darwin Awards. Il y en a beaucoup qui... il y en a, bon, d'ailleurs, moi, je prends ceux qui ont été confirmés. Il y en a qui ont été nommés, mais qui n'ont pas été confirmés. Donc, ça peut être des légendes et tout ça. Il y a des personnes aussi, à travers ça, qui donnent des récits personnels. Donc, c'est vraiment une grosse mine d'informations. Et puis, des fois, c'est dur de trouver la bonne histoire, parce qu'il y en a qui sont très longues, mais qui se synthétisent mal un petit peu. Donc, les ramener oui. à leur radio, leur rendre justice, ce n'est pas évident. Il y en a aussi qui sont quand même atroces. Donc, des fois, je tente de marcher sur la ligne, mais il y en a qui...
Tu penses à nos oreilles et tu te dis...
Oui, il y en a que je dis, OK, non, c'est plus horrible que drôle, donc on les met de côté. Mais pour en revenir à ton commentaire premier, moi, quand je le lis et que je le rends, je suis capable d'être décollé de cette histoire. Je m'en détache.
Ah, d'accord.
Donc, je suis capable de ne pas m'affecter dans la lecture et le recevoir en tant qu'auditeur, me faire compter ces mêmes choses-là. J'aurais des réactions totalement opposées, donc je ne resterai pas stoïque.
Ben, je te félicite pour ça, parce que moi, quand je l'entends, et même si j'essaye, parce que ça m'est arrivé, parce que depuis qu'on a commencé cette chronique qui m'amuse beaucoup, comme toutes celles qui passent, mais celle-ci qui est particulièrement atroce, on va dire, pour les résultats en tout cas, j'essaye des fois de conter à des amis les histoires que tu as racontées et je vois très bien comment je fais, c'est-à-dire que je ris avant, donc ils commencent à rire sans savoir l'histoire. Après, je commence à leur raconter au moment de la chute, je ris avant la chute, je leur raconte la chute et je ris après.
Donc finalement, ils rient avant puis ils se rendent compte qu'il n'aurait peut-être pas dû rire.
Je ne sais pas s'ils rient de l'histoire ou de voir quel plaisir je prends j'ai pris à l'entendre.
Mais
voilà.
Le rire est contagieux.
Ah ben oui, mais complètement.
C'est bon pour la santé également de rire. Une journée où on ne rit pas... Il y a deux proverbes que j'aime bien. Une journée où on ne rit pas et une journée où on n'apprend rien, c'est une journée de perdu. Donc une journée où on ne rit pas, c'est une journée de perdu. Une journée où on n'apprend rien, c'est une journée de perdu.
Alors, je dois dire qu'avec Jean-Sébastien La Liberté à la Technique et Mathieu Tessier, quand ce sont ses jours à lui... Eh ben, je passe pas de journée sans rire. Quant à vous dire que mes autres chroniqueurs, quand ils sont là toute la semaine, j'ai l'occasion de rire. Donc, du lundi au vendredi et le samedi, je ne m'en prive pas non plus. Donc, je pense que je vais rester en très bonne santé grâce à vous tous.
Est-ce que tu as une anecdote, toi, sur les changements d'heure qui auraient pu t'affecter de façon moins tragique que l'histoire que j'ai contée? Mais j'ai fait part de choses
non.
que j'ai vécues, moi.
Non, il m'est arrivé, par contre, d'oublier de changer l'heure et de partir précipitamment à un rendez-vous en arrivant très à l'avance et trouver porte close. Ça, oui, j'ai fait partie de ces gens-là. Mais des choses qui auraient pu m'affecter autrement, non. Sinon que le changement d'heure, oui, moi je continue à penser que la nature étant bien faite, on devrait la suivre au lieu de ça. Ben pour, ouais. Après, c'est un avis personnel, mais j'ai l'impression qu'on commence à penser un peu comme moi, puisqu'il me semble qu'en France, en tout cas, ils pensaient supprimer le changement d'heure.
Il en
je
ne
sais pas
question.
Où ça en est, d'ailleurs, de
non,
cette histoire.
Non, je ne sais pas non plus. Moi, j'ai souvenir aussi, sans qu'il y ait eu de conséquences aussi tragiques, l'heure se change autour de 2 heures du matin environ.
Oui.
Et j'ai souvenir, la première fois que j'avais un téléphone cellulaire, d'être encore debout ce samedi soir-là, 2 heures du matin, je me suis dit, bon, j'y ai 2 heures, je vais y penser. Et j'ai perdu plus d'une heure à tenter de comprendre comment, sur cet appareil-là, changer l'heure. Et puis, l'heure est restée la même. Puis, avec la technologie de cet appareil-là, qui ne se mettait pas à l'heure automatiquement, il fallait avoir soit un appel entrant ou un appel sortant. Donc, à partir du moment dans la journée de dimanche où j'ai fait un appel, l'heure s'est réglée, mais... Bon, de nos jours, avec les appareils, il y a de moins en moins d'appareils dans notre maison sur lesquels on doit manuellement changer l'heure. Ça se fait automatiquement avec les ordinateurs, les téléphones et tout ça.
Ou des fois, quand il faut avancer d'une heure et qu'on recule d'une heure parce qu'on se trompe, ça arrive ça aussi. Bon.
Oui.
Alors maintenant, j'espère que Noémie a bien travaillé pour nous. On ne sait pas, donc on va essayer
parce que c'est un gros défi quand même.
Oui, mais c'était un gros défi, c'est sûr, jusqu'à présent. Mais je pense que il a assez d'humour et de créativité pour avoir travaillé là-dessus. Donc, on va savoir ça dans un instant. Le temps de lui passer un petit coup de fil et de savoir où elle en est. On va écouter une chanson. Qu'est-ce que tu nous proposes, Jean-Sébastien, dans ta longue liste? Mais peut-être pas une chanson qui a lien à ta chronique, mais quelque chose d'un petit peu plus léger ou ludique. Non, tu choisis ce que tu veux. Qu'est-ce que tu peux
léger,
nous proposer?
Plus léger, plus ludique. Allons-y avec du Blue Jeans Bleu. Blue Jeans Bleu, c'est toujours sympathique, ça nous donne envie de rire, c'est léger. Veux-tu jouer un bowling?
Allez, allons-y.
Tu savais bien que dans le sous-sol de l'église de Chesterville, il y avait un éclairage tamisé et deux allées de quilles. Alors pour inviter le gars qui faisait vibrer ton cœur de jeune fille, c'était l'endroit rêvé. Il n'était pas particulièrement viril, pas vraiment costaud, mais de toute ton équipe d'échecs, c'était le héros. Et la fin de semaine, fixant le téléphone couché dans ton lit d'eau, tu rêves pour lui demander, veux-tu jouer à bowling ce soir? C'est le spécial clair de lune disco couche tard. Une allée juste à vous, tu lui ferais tes yeux doux qui se font dans le noir.
Voilà, alors attention, mesdames et messieurs, Noémie Chélariou est avec nous. Noémie, bonjour.
Salut, bonjour.
Alors là, c'était un sacré défi, reconnais-le. Bravo. Oh,
absolument, absolument. Et ça n'a pas, je peux dire, ça n'a pas d'allure, genre. Parce que, écoute bien ça. Là, j'ai raccroché, j'ai cessé d'écouter l'émission à 12h27.
D'accord.
J'ai essayé de prendre le plus possible d'anecdotes de Jean-Sébastien. Puis là, je me suis dit, OK, vais faire un one shot. Je vais enregistrer le piano et la voix en même temps. tout en même temps. Écoute, c'était magique. Puis quand j'ai pas appliqué, je suis tellement attaquée, j'ai pas appuyé sur enregistrer, j'avais pas fait enregistrer.
Oh non!
Fait qu'il a fallu que je recommence. Oh. Fait que là, il était rendu et 38, là, puis j'étais comme, oh non, je l'ai même pas écouté. Fait que je l'ai envoyé, puis je l'ai pas réécouté. That's it.
En tout cas, quoi que t'aies fait, c'est une belle performance parce que c'était pas facile et c'est vrai que je t'ai mis dans un défi très compliqué. Mais je sais que t'es capable.
J'ai aimé ça, OK? Puis les anecdotes de Jean-Sébastien, il a fallu que je choisisse. Là, j'en ai choisi trois, mais j'ai trouvé vraiment drôle. J'avais du gros fun.
Alors, avant que tu nous racontes un petit peu plus sur ce qui s'est passé, on va l'écouter et puis on revient discuter avec toi tout de suite après, d'accord?
OK.
Pour sauter en bas du risque, il faut calculer. Le risque, c'est mathématique avant de sauter. Et pour être à la hauteur, il est effectivement possible d'oublier sa propre grandeur. Et ça, c'est aussi terrible que triste, aussi possible que rire du risque. Tout le monde rigole, plus ou moins fort, avant son tour de rire à mort, pour arriver à l'heure. Être à son affaire, se lever de bonne heure et déjouer la lumière. Quand tout le monde change les aiguilles, ça fausse la ligne du temps. Alors on arrive à l'église presque le jour d'avant. Et ça, c'est aussi comique que triste. Aussi possible que rire du ridicule. Tout le monde rigole, plus ou moins fort, avant son tour pour rire à mort. Pour régler son compte aux méchants, il faut être un peu timbré. Pour ouvrir un présent qu'on a soi-même empoisonné. Parfois, croyez-moi, c'est vrai que la mort s'emballe. J'espère que le méchant a pu se sentir spécial. C'est aussi terrible que triste, aussi possible que rire du risque. Tout le monde rigole, plus ou moins fort, avant son tour pour rire à mort.
Wow! Bravo!
Wow!
Mais ça a bien sorti, Noémie!
Merci. Je pense que la voix est mixée un peu forte. Là. J'avais pas vraiment le temps de faire mon mixage, mais en tout cas, même.
Ah, écoute, c'était bravo parce que c'était une performance parce que quand même, de toute la semaine, faut quand même reconnaître que la chronique la plus déjantée, c'est celle de Jean-Sébastien. C'était un défi de taille que je t'avais mis et que tu as relevé avec brio. Bravo. Vraiment, félicitations. Hey.
Merci.
Mathieu en a la chair de poule.
c'est Mathieu Tessier?
Oui,
oui il envoie des petits messages. Il n'est pas là, mais il nous écoute.
OK, ben bonjour par les ondes, Mathieu Tessier. Mais j'ai trouvé ça plus fun d'avoir comme matière à proposer qui est plus un petit peu plus loufoque, tu sais.
Oui.
Oui, parce que c'est drôle, mais en même temps, ça part de la mort de certaines personnes. Puis c'est ça le défi, justement, c'est de trouver de quelle manière ça peut devenir drôle, puis j'ai aimé ça.
Mais c'est vraiment la preuve que tu peux relever n'importe quel défi. Vraiment. Félicitations pour ça. C'est du talent, ça, madame. Bravo.
Bien, merci beaucoup.
Alors, d'abord, quand on a commencé... Alors, d'abord, avant toute chose, Jean-Sébastien, comment t'as trouvé, toi, la chanson?
Excellent. Vraiment, là, la musique vient chercher. Il y a un petit quelque chose. Puis les paroles, c'est tellement une belle synthèse de ce qui était entendu en première demi-heure. Honnêtement, là, t'as pris les bons mots et t'es mis à bonne place, là. Vraiment, je suis impressionné.
Cool.
Alors, est-ce que ça t'a fait rire dès le début d'entendre un petit peu, parce que tu connaissais pas, Jean-Sébastien me demandait, il me dit, est-ce que tu lui as parlé de quelque chose? Je dis jamais. Je la laisse démarrer avec nous et puis savoir au dernier moment ce qui se passe.
Oui, c'est ça, je savais rien, puis même quand je suis dans les tomates, elle me dit rien. Tu sais, comme un matin, là, j'avais envoyé un message à Arlette, j'avais dit « Oh, je sais pas pourquoi, mais je suis inspirée par des angles puis par les mathématiques. » Puis j'étais complètement dans le champ, là. Vraiment, elle me laissait dans le champ.
Ah ben oui, parce que sinon, c'est pas drôle. La performance, elle est faite parce que justement, tu ne sais rien. C'est ça qui
est... c'est ça.
C'est ça qui était absolument super, mais ça t'est venu très vite et puis c'était chouette de participer à ça. L'expérience t'a plu à toi aussi?
Tu me parles à moi là?
Oui, à toi Noémie, parce que c'est toi qui l'a fait. Nous, on a simplement écouté, mais l'expérience, c'est toi qui l'as vécu.
Oh oui, j'ai vraiment adoré ça. J'avoue que là, j'ai commencé à avoir le stress dans le tapis quand j'ai vu que j'avais pas apaisé sur enregistrer. Ça pourrait être ça, le dernier couplet de la chanson, genre. T'sais, je pourrais me faire un couplet qui raconte que je faisais ma bain fine puis j'avais oublié de peser sur enregistrer.
Toi, heureusement que t'es encore là parce que t'aurais presque pu passer dans les prix Darwin.
C'est ça.
Alors ça aurait été excellent à cause de ça. Non, mais ça, c'est ce qui change complètement de l'ordinaire. Est-ce que tu connaissais, toi, les prix Darwin?
Ben, tu sais, j'avais entendu ça là, entre les branches, mais je savais pas exactement de quoi il s'agissait. C'est original quand même. Hein?
Ah ben écoute.
Oui, c'est célébrer la bêtise humaine à titre posthume.
Ben oui.
C'est quand même complètement fou, quoi. Comme le monsieur qui a fait plus de 800 sauts puis qui saute sans son parachute. Ça, c'est un truc invraisemblable. Alors, désolé vraiment pour ce monsieur, mais en fait, ça n'a pas de bon sens, quoi.
Oui. Mais tu sais, dans le fond, le prix Darwin, c'est quand on célèbre le sens d'humour ironique de la vie, dans le fond, là. T'sais,
oui.
T'sais, oui, oui. L'ironie est là, même dans la mort. On discerne des prix pour la
baisse. Il y a des fois, on n'ose pas en rire. Et c'est pour ça que c'est bien d'en avoir fait une chronique, parce que ça comment dirais-je, ça détend, parce qu'on n'y peut rien. De toute façon, ces gens-là ont commis des erreurs qui les ont menés à la mort. Bah, c'est leur histoire. Mais en même temps, on ne peut pas ne pas en rire, parce que c'est quelque chose qui rend le rire peut-être un peu nerveux, mais qui me fait beaucoup rire. Comme je l'expliquais à Jean-Sébastien, moi, je suis incapable de le raconter à des amis sans rire avant, pendant et après. Alors que lui te fait ça super bien, avec beaucoup de distance.
Absolument. Puis il y a plein de malaises comme ça. Là. Je ne dois pas être la seule, là, mais il y a plein de malaises que j'ai eu dans ma vie, là, où que quelqu'un me raconte la mort d'un proche, puis je sens sa douleur, je sens sa tristesse, mais... il s'élève en moi un envie de rire de pas de bon sens. Puis là, je me dis, mais c'est quoi ça? C'est une mécanique de fuite?
Mais non, mais on l'a tous, je te rassure. Donc, il y a des histoires de fou rire dans des enterrements qui sont qu'on ne peut pas réprimer et qui sont là, on ne sait pas pourquoi. Alors, avant de se quitter, on va réécouter la chanson.
Oh, cool.
Et puis après, on se dira au revoir tous ensemble. Voilà, donc on la repasse. Merci Noémie. Reste avec nous.
Pour sauter en bas du risque, il faut calculer. Le risque, c'est mathématique avant de sauter. Et pour être à la hauteur, il est effectivement possible d'oublier sa propre grandeur. Et ça, c'est aussi terrible que triste, aussi possible que rire du risque. Tout le monde rigole, plus ou moins fort, avant son tour de rire à mort, pour arriver à l'heure. À son affaire, se lever de bonheur et déjouer la lumière. Quand tout le monde change les aiguilles, ça fausse la ligne du temps. Alors on arrive à l'église presque le jour d'avant. Et ça, c'est aussi comique que aussi possible que rire du ridicule. Tout le monde rigole, plus ou moins fort, avant son tour pour rire à mort. Pour régler son compte au méchant, il faut être un peu timbré. Pour ouvrir un présent qu'on a soi-même empoisonné. Parfois, croyez-moi, c'est vrai que la mort s'emballe. J'espère que le méchant a pu se sentir spécial. C'est aussi terrible que triste, aussi possible que rire du risque. Tout le monde rigole, plus ou moins fort, avant son tour pour rire à mort.
Eh bien écoute, alors on a réécouté ça, c'est absolument génial. Merci beaucoup Noémie Chelle-Rioux d'avoir répondu. Et puis à tous ceux qui veulent réécouter, vous pouvez réentendre à 19h l'émission. T'as toujours vraiment beaucoup de talent. Merci Jean-Sébastien Laliberté, parce que grâce à toi on l'a mis en t'es toujours là Noémie?
Oui, je suis toujours là.
Alors on a prouvé que tu pouvais le faire. Oui, elle peut le faire, bravo. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir écoutés. Je vous dis à demain. Au revoir.
Merci
Noémie, à bientôt.
Bye bye.
Merci Jean-Sébastien. Bye
bye.